engagement vers le zéro carbone net au milieu du siècle. Mais être responsable devant l'urgence climatique, c'est aussi être au rendez-vous de la solidarité internationale. La transition écologique se fera avec la solidarité au sein de nos États et entre nos pays, en particulier vis-à-vis des plus vulnérables.
La ministre française de la transition écologique, Elisabeth Borne, des propos recueillis par Christine Siebert. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes à toutes et à tous sur RFI.
Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Dans la quotidienne culturelle et locale, ce soir c'est mardi, alors c'est le jour de nos partenaires. Et en ce deuxième mardi du mois, c'est le THV que l'on retrouve, le Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou. Ensemble ce soir, on va se pencher sur un festival qui aura lieu au début de l'année 2020, le festival Ici Danse, qui met à l'honneur des chorégraphes et danseurs de la région. Nous allons parler de Homme et de Ruine. Homme est un spectacle que vous verrez le 29 janvier. Il vous emmène à la frontière de la danse, du cirque, de la manipulation d'objets. Quant à Ruine, vous y verrez deux danseurs ainsi qu'un musicien. On va voir ça en détail ensemble. Ici Annelie derrière le micro, à tout de suite. Pour cette émission qui est consacrée au THV et à sa programmation, je suis avec Maud. Bonsoir Maud.
Bonsoir Annelie.
Et avec Chloé. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Et on salue aussi Amélie qui n'est pas là.
Qui n'est pas là aujourd'hui.
Mais qui a quand même participé à la préparation de l'émission.
Tout à fait.
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la dernière de l'année 2019 et on a déjà le regard retourné vers le futur.
Vers 2020.
Évidemment. Mmh. Et on va parler d'un événement qui va débuter fin janvier, du 28 au 6 février. C'est le festival Ici Danse. Peut-être avant qu'on plonge dans les interviews, qu'est-ce que c'est que cette chose?
Alors c'est un festival qui est organisé en partenariat avec le CNDC. Le CNDC, c'est le Centre National de Danse Contemporaine qui est installé au Quai, à Angers, et qui, donc, comme son nom l'indique, est un centre national spécialisé dans la danse contemporaine. Et ce festival avait été imaginé par notre ancienne directrice qui avait un projet autour des arts du mouvement. Et ça s'appelle Ici Danse parce que l'idée, c'est de mettre en valeur les compagnies de danse locales. Alors locales, c'est pas nécessairement juste les compagnies angevines, mais on parle des compagnies régionales, en fait, donc de tous les pays de la Loire. Et donc tous les artistes qui sont programmés pendant ce festival, aussi bien au THV qu'au CNDC, sont des artistes d'ici.
Voilà. Ouais. Et c'est hyper varié, on va voir un petit peu aussi avec les interviews tout à l'heure. Il y a aussi la commune de Loire-Authion cette année qui rejoint Ici Danse et la collégiale Saint-Martin. Tout ça pour vous dire, soyez attentifs au lieu où se jouent les spectacles. Toutes les infos seront sur icidanse.com, icidanse au pluriel.
Ouais, parce que plein de danse.
Plein de danse. Très belle annonce pour la suite. Nous, on va parler de Homme et de Ruine. Tous les deux joués au THV, mais d'abord, on va débuter l'émission en musique. Parce qu'on a bien débuté en musique avec Flavia Coelho. C'est le 11 janvier au THV.
C'est ça, et on aura réintégré notre hall.
Oui, parce qu'il y a toujours des travaux.
Ouais, c'est toujours un peu le bazar. Là, on est en pleine poussière et tout ça, et on va enfin réintégrer, et on est content. Ouais.
Et on peut toujours prendre des places pour Flavia Coelho.
Je crois que c'est bien plein. Mais après, une chose est importante quand même à savoir, c'est que, alors on peut être sur liste d'attente avant, même s'il y a rarement des désistements avant, mais par contre, le soir, il y a toujours de la place. Mm-hmm. Il y a toujours des gens qui ne viennent pas, parce que soit ils sont malades, soit ils ont oublié, soit ils ont autre chose, voilà. Mais c'est très rare qu'on ne fasse pas rentrer une dizaine de personnes le soir, donc... Il ne faut pas hésiter à venir, en fait.
Okay. Voilà. Rendez-vous le 11 janvier. Et on écoute Nada Perdi. Alors pour parler de ce festival Ici Danse qui va débuter fin janvier, on va commencer avec un spectacle qui aura lieu le mercredi 29 janvier au THV. C'est Homme, je ne sais pas encore comment on le prononce, ou Home, on va voir. Et nous sommes en ligne avec Benoît Canteteau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, c'est super, le téléphone fonctionne. Et Chloé, c'est toi qui as préparé cette interview, je te laisse la mener.
Bonjour Benoît Canteteau. Vous êtes chorégraphe, danseur, performeur pour le groupe Fluo. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre spectacle Home qui sera bientôt au THV.
Exactement.
Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le travail du groupe Fluo? Quelles sont vos inspirations, le rapport au corps, le rapport à la danse et le rapport aux objets?
Du coup, le groupe Fluo est une compagnie à la lisière entre la danse, les arts visuels et... un peu emprunté aux arts du cirque, puisque moi j'ai une formation de circassien à la base, Et spécifiquement de jongleur. J'ai fait le Centre des arts du cirque de Toulouse, le Lido. Et du coup, le rapport au jonglage fait que j'ai aussi un rapport extrêmement familier aux objets. Et les objets sont, depuis, donc, oh, mais la troisième véritable création de la compagnie. Et voilà, on a toujours donc la première pièce qui s'appelait Trécède, qui s'appelle Trécède, c'est avec une planche à la verticale. La deuxième fossile, c'est avec 400 kilos de livres. Et là, pour Home, j'avais envie de travailler un peu différemment le rapport entre l'objet, le corps, l'espace, qui sont vraiment un peu le leitmotiv de la compagnie, pour travailler sur une sculpture en fait à part entière et qui sera qui est à construire. La pièce, c'est la construction de cette sculpture. Et dans cette construction, on traverse différents événements et ça fait référence du coup à différentes choses, et un peu le cours des choses, les poids qu'on transporte, les poids qui gravitent autour de nous, le rapport à l'équilibre aussi, donc on retrouve énormément dans Home, mais qui est aussi une constante de la compagnie, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai emprunté aux arts du cirque, le rapport au risque, à l'équilibre et du coup à la chute. Voilà, est-ce que j'ai un peu fait le tour de la question?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et il me semble que dans votre spectacle, il y a beaucoup la notion de stabilité. Pourquoi cette notion de stabilité?
Non, pas tellement de stabilité. En fait, la sculpture en soi, donc l'objet, on est pas tellement dans la scénographie, on est vraiment plus dans un rapport sculptural, et instable, c'est-à-dire comme un mobile, mais qui part du sol, où le point d'équilibre est au sol. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plus le déséquilibre que la stabilité, de manière générale. Mais l'équilibre, c'est un mouvement entre deux autres déséquilibres, en fait, de toute façon.
Et dans votre spectacle, tout a été imaginé à l'avance ou il y a une part d'improvisation?
Alors non, il n'y a pas. Il y a la notion de tentative, vraiment, parce que c'est une construction, c'est un assemblage qui est assez minutieux, où on passe parfois de mouvements qui s'apparenteraient presque au charpentier, à d'autres à l'orfèvrerie, où voilà, je suis vraiment dans ce rapport au jeu d'équilibre, où des fois c'est voilà, c'est plus brut et des fois très minutieux. Pardon, votre question exacte? Excusez-moi. La première question dans Home, et voilà, est-ce que tout est improvisé? Est-ce que non, est-ce que tout est écrit ou est improvisé? Donc, en fait, voilà, il y a cette question de tentative où bah, il peut toujours se passer un truc où j'ai voilà l'objet qui se déséquilibre ou un déséquilibre que j'ai un peu poussé. Donc voilà, des fois ça va aller un peu plus loin, mais sinon on est vraiment tout est écrit, c'est une partition où voilà chaque objet, mouvement, déplacement, texte est voilà écrit puisque j'avais vraiment envie de prendre la pièce, enfin une inspiration de la pièce a été Der Lauf der Dinge de Peter Fischi, David Weiss, qui est une vidéo d'installation de réaction en chaîne. Et j'avais envie d'écrire la pièce comme ça, c'est-à-dire un flux continu de choses qui entraînent l'autre. Un objet qui va entraîner tel mouvement, qui va entraîner telle action, tel déplacement, voilà. Que tout se coordonne comme s'il y avait un flux comme ça de réaction en chaîne. Et après, moi, la partition que j'ai à l'intérieur de la pièce, c'est vraiment d'essayer de se laisser agir justement, plus que de vouloir agir. Donc, ce qui est toujours un peu paradoxal et qui est une partition qui est presque impossible, puisqu'en représentation, on a toujours envie il y a la question de la représentation. Mais là, c'est voilà, c'est de se laisser porter par ce flux des choses que la pièce met en jeu, en fait.
Et est-ce pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites sur scène exactement?
Alors, sur scène, les spectateurs rentrent, il y a toute une série d'objets posés au sol, donc des objets qui sont. Ça va de poids en fonte, en plomb, des grands tasseaux, poutres, des grillages sculptés un peu en forme. Voilà. Donc, tout un ensemble d'objets un peu qu'on pas de vérité. Enfin, certains, on peut les identifier. Il va y avoir un caillou, il va y avoir, mais ils n'ont pas de véritable fonction. Puis, en fait, je répartis les objets sur le plateau. Et voilà. Ensuite, je construis et j'assemble. Alors, Je construis, c'est-à-dire que toute la construction est chorégraphiée, c'est-à-dire que voilà, c'est les objets ont justement été faits pour que chaque objet entraîne des manipulations, des mouvements, et voilà, finalement presque chaque transport, chaque manipulation d'objet est une sorte de petite histoire de un poids, un trace, un souvenir qui est toujours un peu particulière. Enfin, qui va être, qui va raconter quelque chose, mais ça s'assemble et puis petit à petit en fait ces objets au sol sont assemblés les uns sur les autres à partir d'un mât, donc tout en équilibre, donc ça se joue là entre aux alentours de 1,80 m, 2 m de hauteur comme ça, et ils viennent se superposer et un entraîne un déséquilibre de l'autre et ainsi jusqu'à former à la fin un très grand mobile stable qui fait voilà, 10 mètres d'envergure sur 2 mètres 20 de haut et entièrement en équilibre voilà, sur lui-même et qui gravite. Et accompagné à ça, je suis avec, vraiment avec, il y a une comédienne aussi. Donc moi, c'est vraiment danse, construction d'objets. Il y a une comédienne qui est là qui est, et qui pose un texte, qui vient poser des questions, qui vient parfois lancer quelques phrases, quelques textes qui sont en écho avec la construction, mais qui viennent ouvrir justement, ouvrir l'imaginaire. Et c'est d'avoir différentes lectures possibles de cette construction qui est un peu brute et de dire, mais de ramener en fait à la construction personnelle, à la construction de soi, à la construction d'un groupe aussi, d'une société, c'est-à-dire bah, voilà, toutes ces choses en équilibre, ces choses qu'on recommande, ces choses qu'on assemble, ces choses un peu instables, mais qu'on doit faire avec en fait. Et tout au long de la pièce, c'est ça, c'est dans cette question de l'instabilité, trouver une sorte de grâce et de beauté, en fait, dans l'incertitude des choses. Voilà un peu ce qui se passe sur le plateau.
Vous parliez, du coup, d'objets et de structures, justement. Comment l'avez-vous imaginé, cette structure sur le plateau ?
C'était un long travail, en fait. Donc, jusqu'aux précédentes pièces, je travaillais vraiment voilà, sur le rapport corps-objet-image, où je composais des... ce que moi j'appelle des sculptures, mais qui sont des sculptures en mouvement, où je mettais mon corps en équilibre, sur des piles de livres, enfin bon, vraiment je crée des compositions d'images, et là, pour cette pièce, j'avais vraiment envie de construire une sculpture, et le mobile, en tant que jongleur, l'objet suspendu qui flotte dans l'air, voilà, ça m'a toujours un peu fasciné, en tout cas quand je faisais ma formation et que je passais des heures à surtout ramasser des objets au sol, voilà, Les sculptures mobiles ont toujours été fascinantes. Et puis, je voyais dans le mobile quelque chose qui ramenait vraiment finalement à ce qu'est un être, en fait. Quelque chose, voilà. Un ensemble de fragments qui flottent. Et on s'en est suivi un long travail de recherche. J'ai fait des maquettes, des demi-formats. Et puis, à un moment, j'arrivais pas, je trouvais des choses, mais je me suis dit, ah, mais non, mais ça va, comment le manipuler, comment le mettre en jeu, comment le mettre en scène, en mouvement. Et donc, j'ai accepté que j'étais pas designer, pas architecte, même si j'ai été accompagné d'un architecte-designer sur la conception et la réalisation. Mais à un moment, j'ai dit, bon, je prends, voilà, ça fait 6 mois, j'ai fait je sais pas combien de maquettes, de tentatives. J'essaye, voilà. Et donc, j'ai fait une sorte de premier prototype. J'ai pris voilà, un grand studio pendant 5 jours et j'ai assemblé un peu tout ça, mais riche de ces expériences, j'avais voilà, trouvé des principes que du coup, j'ai mis en forme. Et puis, il y a eu un prototype qui est né, voilà, qui m'intéressait. En tout cas, il se passait quelque chose par rapport au plateau, par rapport au corps et au mouvement. Et puis, il y en a eu 4, en fait. Enfin, celle qu'on voit maintenant, celle du spectacle, est la 4e version, puisque finalement, cette sculpture a été vraiment comme le même travail qu'on fait voilà, avec un interprète, c'est-à-dire le travail de trouver ses qualités, sa présence, ses mouvements, tout ce qu'elle va générer. Donc ça a été, voilà, moi j'avais plein d'objets que j'ai cherché, et puis voilà, vraiment, un travail de. Ça, elle s'est vraiment faite, elle s'est constituée au plateau, en fait, comme l'écriture de la pièce.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes issu du monde du cirque. Ce spectacle est-il accessible du coup aux enfants par le fait que vous jouez avec des objets, qu'il est mobile aussi ?
Alors, tout à fait, tout à fait. Nous, on met à partir de 8 ans, mais même ça peut être avant en fait, parce que l'enfant, il est dans ce rapport à la construction en fait. Enfin, ça emprunte peut-être d'une certaine manière au Kapla. Pas au Mikado, mais pas loin. Enfin, y a quelque chose, voilà, on ne sait pas si ça va tenir, quoi. Ou alors, qu'est-ce que ça va donner, jusqu'où ça va aller, en fait. Et finalement, il y a quelque chose que l'enfant, en fait, reconnaît très bien, qui suit dans ce rapport à la construction, et qui fait finalement autant écho à l'enfant que à l'adulte, parce qu'on est tous dans ces chemins-là, en fait. Donc oui. Après, c'est pas... j'emprunte au cirque, c'est pas une... On n'est pas dans un rapport virtuose ou de démonstration, mais bah, y a quelque chose après du rapport à la construction qui est, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va tenir, donc oui, les enfants suivent très bien et aucun problème à faire leur propre chemin, en fait, finalement, même si la pièce de par le texte, de par ce qui se met en scène, soulève des choses plus complexes, qui plus liées à des questionnements de construction de soi, de réalisation de soi, donc voilà, qui est peut-être plus emprunt à l'âge adulte. L'enfant fait aussi son chemin dans cette construction et s'identifie, je pense, énormément et s'y retrouve à plein d'égards.
Sur votre site, sur le site de la compagnie, à la fin de la présentation, il y a une phrase que vous avez dite, c'est « bref, le cours des choses ». Pouvez-vous nous expliquer cette phrase? A-t-elle été une ligne directrice pour la création du spectacle?
Non, en fait, donc voilà, comme je disais, donc il y a une comédienne qui est aux abords de plateau. Elle est vraiment, elle est dedans, dehors. En fait, elle est toujours présente. Enfin, musicienne, comédienne, elle envoie la bande son, mais elle est toujours présente et elle est presque vecteur. En fait, elle vient. On peut dire ce que le public parfois pourrait se demander, mais le texte a été écrit comme ça, un peu. Elle va le dire tout haut. Le texte est vraiment écrit sur le décalage, en fait. Et c'est pas cette phrase, en fait. Il y a une autre phrase à un moment qu'elle dit. Donc, il y a une phrase qui a été vraiment au cours de la création, qui vient d'un texte qui s'appelle Éloge de l'insécurité, d'un philosophe américain qui s'appelle Alan Watts. Et dans le texte, il dit j'ai toujours été fasciné par la loi de l'effort inverse. Lorsque vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Et donc voilà, ça c'est vraiment un peu cette chose, en fait, qui se joue, en fait, finalement, dans la pièce. Et j'adorais cette phrase, mais elle est aussi très bien, très phrase philosophique, comme en effet dans mes extraits. Et j'avais besoin de désamorcer, du coup, on s'est dit, en fait, bref, tout ça, c'est les choses de la vie, quoi. Donc voilà pourquoi, en fait, et à la fin, elle finit, bon, elle le fait bien mieux que moi sur cette interview, mais voilà, en fait, elle vient désamorcer cette phrase aussi, et tout le texte qui se pose, il est comme ça, il vient soulever des choses, il vient désamorcer, il guide, il ouvre d'autres portes, d'autres possibilités, donc voilà, mais en effet, c'est-à-dire que la pièce, je reviens au début sur la présentation, la pièce s'appelle Home, pour Heart of the Matter, soit le cœur des choses, le cours des choses, qui serait une traduction anglaise possible, mais qui est aussi Home, le mantra hindou, et je voulais récupérer l'homophonie, en fait, donc il ne s'écrit pas de la même manière, mais l'homophonie, qui signifie la vibration de toute existence, et du coup, en clin d'œil à Der Lauf der Dinge de Peter Fischer et David Weiss, qui en, de l'allemand se traduit le cours des choses, en fait. Et voilà, le cours des choses, le cours de la vie, les choses de la vie, quoi.
Eh bien, je vous remercie pour vos réponses, Benoît Canteteau.
Merci pour cette interview.
Merci beaucoup. On vous retrouvera sur la scène du THV, donc dans Home. Ce sera le mercredi 29 janvier à 20h30. Et la comédienne qui vous accompagne, c'est Marie Harley.
Ce sera Jordan Sonal.
D'accord.
Il y a,
merci.
Voilà, il y a plusieurs distributions. Puisque, voilà. Donc sur cette, ce sera Jordan Sonal.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous, on va continuer l'émission avec un autre morceau de musique issu lui aussi de la programmation du THV. C'est Mariama avec Raindrops. Elle sera en concert le jour de la Saint-Valentin, le 14 février.
Pour chanter des chansons d'amour.
Waouh. Bon, allez, on l'écoute.
Raindrops keep falling on my head. Raindrops
But I want sunshine instead. Raindrops keep falling on my head. Raindrops, why didn't you leave me with sunshine? Not happy like I used to be. Water falls on my head, all alone in my bed, wondering what could be wrong with me. Listen to the falling waters, secret lullaby. Keep falling, take a chance and dance along. Constantly colliding, afraid of my own insecurity, with no one left to blame for this losing game. And these gold showers pouring down on me. Illusions, confusion, used to be. Streak of light on the horizon, a will to strive in me that's rising. Let me catch this wave and I'll be riding. Give me thunder and lightning and raindrops falling on my head. Raindrops, but today I'm okay with that. Raindrops just falling on my head. Raindrops. Maybe tomorrow the sun will shine again. Stand still and feel the rain. See the flowers bloom again. Nothing to lose except the pain. Everything gained, everything gained. Stand still and feel the rain. See the flowers bloom again. Nothing to lose except the pain. Everything gained, everything gained.
Alors on poursuit cette oreille curieuse consacrée au THV. On regarde la programmation du festival Ici Danse qui aura lieu fin juin jusqu'au début février, fin janvier. Alors je dis n'importe quoi sur les dates moi. Et là on va se tourner vers un spectacle qui aura lieu le 5 février. C'est Ruine avec la compagnie Lamento. Et c'est toi qui as préparé cette interview, Maud.
Et nous sommes en relation avec Sylvère Lamotte au bout du fil. Bonjour Sylvère.
Bonsoir.
Donc tu es danseur et chorégraphe, danseur pour de nombreux chorégraphes dont nous avons déjà accueilli le travail de certains au THV, je pense par exemple à Paco Dessina ou François Vérune, dont tu as fait partie des pièces. Et puis tu as fondé la compagnie Lamento en 2015 et tu as déjà créé 3 pièces avec cette compagnie. Et au THV, donc, nous accueillons ton travail dans le désordre, puisqu'on a déjà accueilli Les Sauvages en 2018, qui était la seconde pièce, et on accueille cette année Ruine, donc, qui était la première. Et alors, parlons de Ruine. Dans cette pièce, tu explores la beauté de la violence ou la violence de la beauté, en tout cas du conflit ou de la collusion qu'il peut y avoir entre les deux, de leur auto-sublimation. C'est quand même un duo complexe, violence et beauté. Et du coup, je me suis demandé pourquoi chercher la beauté là où on ne l'attendrait peut-être pas, là où on n'a peut-être pas envie de la voir. Qu'est-ce que toi, t'avais, de quelle chose t'étais en recherche dans ce duo-là?
Alors, Ruine, en fait, ça part d'un souvenir en fait que j'ai eu dans les ruines de Pompéi, à côté de Naples, où justement on nous propose en fait des ruines que je trouve absolument magnifiques, complètement détruites, qui témoignent vraiment d'une violence passée. Et en fait, on nous propose tout un tas de reconstitutions qui sont censées, on va dire, sublimer la beauté d'antan. Alors, telle voûte, telle couleur, etc. Et je me suis absolument pas reconnue, finalement, dans la projection de ce que c'était auparavant. Donc, j'en ai tiré, on va dire, ce, cette intuition de tension entre violence et beauté, d'où le titre Ruine, qui m'évoquait en fait cette tension, qui m'évoque cette tension à chaque fois que je vois des ruines. Et après, ça a été la rencontre entre, plusieurs univers, avec tout d'abord la musique de Strachot et Melkowski, et puis la rencontre complexe entre violence et beauté, effectivement, entre Jérémy Couillon-Jean et moi-même, au plateau côté danse.
Tu veux dire qu'il y en a un qui incarne la beauté et l'autre la violence ?
Non, absolument pas. En fait, moi, je me suis appuyé sur des iconographies très précises, qui sont à peu près au nombre de 50. Empruntées évidemment à des peintures baroques et classiques, du Caravage jusque Hans Memling. Et puis, en les reprenant vraiment à la position prête, à l'expression, au pli de peau, je les ai en fait mêlés avec une iconographie beaucoup plus triviale, beaucoup plus violente, d'émeutes, de photos que j'ai trouvées ici et là, notamment on va dire de situations assez complexes prises de matchs de MMA et de free fight, qui sont deux disciplines interdites en France pour l'instant. Le MMA qui veut dire Mixed Martial Art, où à peu près tous les coups sont permis. Et en fait, en me permettant de faire pause sur des combats assez célèbres, ça offrait, à la manière d'une peinture, des situations très, très complexes, très violentes. Et en fait, on passe l'un et l'autre, on oscille vraiment entre les peintures et les photos pour finalement perdre et questionner toujours l'œil du spectateur, avec cette volonté finalement de venir sublimer des situations qui à la base sont plutôt triviales.
Et du coup, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi avoir envie de sublimer des choses triviales ou dures, en fait, tu parles de disciplines qui sont interdites en France. Quand tu parles d'iconographie religieuse, effectivement, on reconnaît des scènes de douleur, des crucifixions, une déposition de croix, des extases, qui sont peut-être des moments plus sympas, entre guillemets, dans l'iconographie religieuse, mais il y a aussi des piétas, des choses quand même, qui sont des scènes de tristesse. Pourquoi avoir envie de sublimer ? C'est esthétique, c'est historique, c'est philosophique. Et qu'est-ce que tu vas titiller, en fait, peut-être de toi-même ou du spectateur, dans cette envie de rendre beau quelque chose qui ne l'est peut-être pas tant que ça, en fait ?
Je pense que c'est dû avant tout à mon parcours, donc il y a un peu des trois, que ce soit philosophique ou esthétique. Moi, j'ai beaucoup dansé, on va dire, à l'extérieur, des théâtres, dans la rue, dans les prisons, dans les hospices. D'ailleurs, Ruine, on l'a créé au milieu d'un EHPAD à la base. Et ça m'a toujours, en fait, ça m'a frappé en tant que jeune danseur qui sortait du Conservatoire supérieur de Paris, de venir danser des œuvres qui étaient pour moi assez iconiques, parce que j'ai commencé avec Angelin Prêt-Lecage, et de les danser sur des plages de marché, entre le fromage et les volailles, et qu'en fait, qu'on soit là à s'échiner vraiment, à faire du beau, ou de proposer quelque chose, une œuvre, en fait, au milieu d'un quotidien tout à fait banal pour la plupart des gens. Et ça, j'en ai gardé en fait le goût d'aller à la rencontre justement de moments sublimes et de sublimer des moments du quotidien où justement à chercher la lumière dans toute cette obscurité ambiante. Et donc j'avais vraiment envie d'envoyer un message ou en tout cas de répandre ce message-là, qu'il est possible de sublimer notre quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ruine, on le dansera le 5 février évidemment en boîte noire, c'est-à-dire en théâtre, mais j'adore en fait le danser aussi en extérieur.
Et alors du coup, comment ça se traduit en danse ? Donc tu as dit que tu, parfois même au pli de peau, à la lumière même, c'est vrai qu'il y a des lumières un peu, comment dire, très entre l'ombre et la lumière justement sur le plateau, on est vraiment plongé à la fois dans des tableaux et puis dans d'autres scènes, mais du coup dans les gestes, les mouvements, dans ton travail et ta formation, toi, ton parcours, donc tu parlais du conservatoire, mais tu as aussi quand même exploré la danse contact, qui est une danse de grande proximité entre les interprètes, si je définis très rapidement, mais aussi les portées, ou par exemple avec François Vérune, dont je parlais tout à l'heure, et puis on a accueilli une pièce en début de saison de lui, et donc on reconnaît sa danse très lente, très maîtrisée dans les gestes, les mouvements et le rythme qui est aussi infusé en fait sa façon de travailler. Est-ce que tu peux nous décrire ton travail et ce que tu recherches dans le mouvement dans Ruine, qui est peut-être qui est pas du tout la même chose dans les autres pièces, mais dans Ruine c'est quand même assez spécifique.
Oui, c'est une pièce assez, c'était ma toute première pièce assez fondatrice, on va dire. Moi, je suis issu donc j'ai un parcours de danseur contemporain, avec évidemment plusieurs esthétiques. On a appris plusieurs esthétiques au conservatoire et puis après en compagnie. Puisqu'en train Angelin Préjocage, Paco Dessina, François Vérune ou Système Castasseur encore, c'est vraiment des esthétiques très différentes. Et en fait, j'ai fait très tôt la rencontre, de Didier Silleul, qui était mon professeur en danse contact improvisation, qui est un courant de la danse contemporaine issu de Steve Paxton, qui est un Américain, lui. Et donc Didier Silleul était, lui, un élève de Steve Paxton et a enseigné, on va dire, cette discipline au conservatoire supérieur. Et je sais que j'ai toujours gardé un grand goût, on va dire, à la rencontre entre les corps, notamment sous la figure du porté, qui, moi, à chaque fois, me transporte, m'émeut. Dès qu'un corps quitte le sol, je pense que ça, pour moi, il y a, on va dire, une grande humanité qui se dégage de ces figures-là ou de cette poétique des corps. Et donc, c'est vrai que Ruine baigne là-dedans. Tout ce travail de lenteur, puisque du point de vue de l'iconographie, ça me semblait très à propos, on va dire, de balader l'œil du spectateur, mais très vite, cette lenteur, ce temps déployé, il a été nécessaire et il s'est un peu imposé pour éviter de perdre trop l'œil des gens. Et donc c'est vrai que ça en résulte, on va dire, un duo très corps à corps, portant, porté, et dans un rapport d'extrême lenteur, ce qui rend les choses très... très physique, très compliqué.
Et on sent, tu parlais duo, parce que c'est un vrai, enfin, on parlera tout à l'heure du duo trio que vous formez, puisque tu as parlé du musicien, mais j'ai envie qu'on en parle après, mais là aussi de parler de ce duo que tu formes avec Jérémy Kouyoumdjian, qui est un duo, je trouve que c'est effectivement très émouvant de vous voir vous porter, vous soutenir et être dans cette même dynamique de la lenteur, mais il y a une très grande complicité. Tu es le chorégraphe de la compagnie, mais vous avez un travail très fin tous les deux, comment ça se passe en fait ensemble pour créer cette pièce?
C'est vrai qu'avec Jérémy, on s'est connus très tôt dans notre parcours d'interprète et on a travaillé ensemble dans d'autres compagnies. C'est un interprète magnifique. On a une grande connivence ensemble puisque c'est aussi un ami, on va dire, dans la vie. On est très proches et je pense que les gens le voient, on va dire.
Ouais.
Et puis c'est tout ce travail en fait qui prend des années et des années en termes de confiance, c'est-à-dire que pour la majeure partie du duo, en fait, Jérémy, il a les yeux fermés. Et il y a un complet lâcher prise, on va dire, dans son corps, puisqu'il ne gère rien du tout, c'est moi qui le porte et qui le manipule. Et ça s'acquiert au fur et à mesure, on va dire, d'échanges et d'années et d'années de pratique ensemble autour de cette danse contact qui est toujours, on va dire, vivante, parce que c'est vraiment du corps à corps et que on n'est jamais sur le même point d'équilibre et que pour faire des iconographies de descente de croix où ils sont 13, si mon souvenir est bon, nous sommes que deux et c'est là que les portées, on va dire, main à main ou alors ce qu'on appelle désaxé, c'est-à-dire où le bassin n'est pas dans l'axe de l'autre, vont venir se déployer. Et on a écrit beaucoup de choses ensemble avec Jérémy sur cette pièce-là. Oui.
Et donc au plateau, vous êtes donc deux danseurs, mais il y a bien un troisième interprète qui est donc un musicien, qui est Stratos Temelkovski. Et alors, pourquoi il est là, lui? Quelle importance? Pourquoi une envie de musique jouée en live? Et pourquoi cette musique-là? Peut-être que tu peux nous parler de cette musique et voilà, de sa présence et de son importance.
Alors, Strachaud, c'est aussi avant tout une rencontre humaine, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés très tôt dans mon parcours d'interprète et c'est un multi-instrumentiste, autodidacte pour la plupart d'ailleurs, d'origine macédonienne, donc il a tous ses sons un peu orientalisants qu'il déploie dans tous ses instruments. Alors sur le plateau, il ne joue que de la basse et du mandol, qui est un instrument, on va dire, en sonorité assez proche du oud. Voilà, c'est comme une mandoline basse, on va dire. Et il joue ces deux instruments en aller-retour et parfois conjointement, puisqu'il joue avec une, on va dire, avec une méthode qui s'appelle le tapping, donc il vient directement taper les notes plutôt que de pincer les cordes, et ce qui permet en fait de jouer les deux guitares en même temps. Et la musique live, elle, c'est vraiment, c'était un souhait que j'avais et que je retrouve d'ailleurs dans ma prochaine création d'artiste live au plateau, puisque j'ai Strachaud, lui, il est issu de la, on va dire, de la tradition un peu tzigane. Donc il a des choses, on a composé toutes les couleurs, on va dire, ensemble. Et puis après, il a des cues visuelles et entre-temps, en fait, il joue avec le cœur sur l'instant. Donc il est vraiment en live et ça témoigne, on va dire, d'une grande richesse. Comme on est dans un duo très, qui peut paraître très fermé avec Jérémy, j'avais besoin d'une troisième entité et d'une musique qui puisse non pas être intrusive, mais vraiment complémentaire de ce duo. Et je trouve que Strachaud le fait magnifiquement bien et ça circule vraiment entre lui et nous. Voilà, parce que nous, on a beaucoup de choses en lien avec lui et lui compose vraiment sur le moment aussi avec les corps.
Merci Silver de toutes ces réponses. Donc on te retrouve pour Ruine le mercredi 5 février sur le plateau du THV à 20h30. Et donc c'est un spectacle de la compagnie Lamento.
Merci.
À la fin de l'oreille curieuse, on entendait Disperato, un titre de La 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 Napoli, annoncé comme transvolcanique.
C'est ça.
Et ce sera le
concert de
ouf, 7 mars.
Donc, je pense que les fauteuils vont finir arrachés.
Comme dans un concert de Gilbert Beco.
Oui, la référence est... non. Si tu veux,
c'est un peu
gêné.
Bon, oubliez ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec Gilbert Bécaud.
Mais c'est peut-être la même ambiance, effectivement.
Allez-y, vous
ouais,
verrez
ça
bien.
Ça va être super.
Transvolcanique, le 27 mars à 20h30.
C'est ça.
Avant de se quitter, quelques
Juste
dates
Juste un rappel pour cette fin d'année. Au THV, on organise tous les ans un cinéma de Noël qui est offert. Donc demain, à 14h et à 16h, on diffuse La Tortue Rouge, qui est donc un film d'animation conseillé à partir de 6 ans. Et une fable écologique toute douce sur l'espoir. Voilà.
Oui, ça m'évoque de super ouais, retours, je
c'est
crois.
C'est ça, exactement. Un très beau dessin, vraiment un très très beau dessin animé. Et après la séance de 14h ou avant la séance de 16h, il y a même le VPR, donc qui est le Village Pierre Rabhi, qui est notre CCAS, qui offre un goûter. Donc voilà, si demain vous ne savez pas quoi faire par ce temps un peu frisquet, venez donc au cinéma et mangez des brioches et du chocolat à Saint-Barthélemy. Tout est offert, donc c'est une bonne façon de terminer l'année, c'est ça.
Trop bien.
Et puis du coup, on peut quand même dire au revoir à Chloé et merci, puisque c'est sa dernière émission avec le THV. Chloé finira son stage alors qu'il n'y aura pas d'émission.
Voilà. C'est une grande tristesse.
Ouais.
Merci beaucoup Chloé.
Merci Chloé.
Merci.
Et Maud, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été là pour cette émission. On se retrouve pour la prochaine émission du THV le 14 janvier. On sera en 2020.
Donc d'ici là, on aura mangé beaucoup trop de chocolat.
Nous vous souhaitons une foule de chocolat. Je vous laisse sur les ondes de Radio G, le 101.5. Et à 19h, vous allez retrouver Tendance à me plaire. Nous, on sera là demain à 18h10. Évidemment, dans l'oreille curieuse, on va parler art visuel et exposition avec un pop-up store. Bonne soirée, à demain.
www.radio-g.fr Radio G. 101.5 FM.
Tendance à me plaire.